on dirait de joie la joie de Dieu. Alléluia.
Alléluia. On dirait de joie.
J'élève mes mains en victoire, célébrant Jésus, roi de gloire. Je m'avancerai vers son trône, jetant à ses pieds ma couronne.
Je lève mes mains en victoire.
Thank you. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Sa présence est toujours un réconfort extraordinaire. Il est vrai que nous pouvons passer des heures et des heures à le louer. Et savez-vous que c'est ce que nous ferons dans le ciel de gloire? Nous passerons notre temps à le louer, l'adorer, à le servir aussi, bien sûr. Mais lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons les saints qui sont glorifiés, tous les chrétiens qui sont morts, ayant accepté le salut en Jésus-Christ, sont autour du trône et célèbrent et glorifient celui qui a donné sa vie pour eux. Gloire au Seigneur. Amen. Il est bon d'être dans sa présence. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Mille ailleurs. Qui est semblable à lui dans le ciel? Qui est semblable à lui sur cette terre? Qui peut nous combler réellement? Qui peut nous satisfaire dans ce monde? Personne. Personne ne peut nous satisfaire que Jésus. Et Jésus seul. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Nous avons bien loué le Seigneur. Nous lui avons parlé, nous lui avons dit notre amour et maintenant il veut aussi nous parler. Il nous a laissé sa parole pour que nous puissions le servir, l'aimer comme il le veut. Nous ne pouvons pas servir et adorer le Seigneur comme nous le voulons. Nous devons le faire selon sa parole. C'est pourquoi il nous a laissé sa parole pour nous montrer comment nous devons l'aimer, l'adorer et comment nous devons le servir. Que son nom soit béni. Mon message de ce matin sera celui-ci. Que signifie être chrétien? Que signifie être chrétien? Lorsque nous posons la question aux gens dans la rue et on leur dit « Es-tu chrétien ?» Beaucoup de gens diront « Oui, je suis chrétien. » Mais leur vie n'est pas du tout transformée. Il n'y a eu aucun changement dans leur vie. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et même lorsque vous allez dans des prisons, vous rencontrez des gens qui ont mal fait et vous leur dites « Est-ce que tu es chrétien ?»« Mais bien sûr que je suis chrétien. »« Mais si tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais dans la prison ?» Voyez-vous, ils vous diront qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne réfléchissent pas que lorsqu'on est chrétien, il y a une transformation qui s'opère dans sa vie, n'est-ce pas vrai? Pour beaucoup, être chrétien, cela veut dire avoir une religion. Mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je suis chrétien. N'ai-je pas ma religion? Cela n'est-il pas suffisant? C'est peut-être suffisant pour toi, mais ce n'est pas suffisant pour Dieu. Dieu voit les choses différemment. C'est pourquoi j'aimerais ce matin qu'on voit ce que signifie être chrétien selon la parole de Dieu. Et vous savez, à quel moment, pour la première fois, le mot de chrétien a été utilisé dans le Nouveau Testament? C'est intéressant de savoir à quel moment, pour la première fois, on a utilisé le mot chrétien. Vous savez, c'est toujours très important de savoir à quel moment on utilise pour la première fois un mot dans la Bible. Et quand on découvre dans quelles circonstances ce mot a été donné, nous en découvrons le vrai sens. Nous en découvrons le vrai sens. Et vous allez voir, nous allons voir donc dans les Actes des Apôtres, là où ce mot de chrétien a été utilisé pour la première fois. Et nous allons lire tout le contexte qui s'y rapporte pour voir qui étaient ces chrétiens. Ces chrétiens bibliques, ces vrais chrétiens. Et nous allons voir qui ils étaient et nous allons voir si nous pouvons nous comparer à eux. Il est très important de voir ainsi quelle est donc la vraie signification du mot chrétien selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Car il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens, mais qui en définitive ne le sont pas. Ils ont une religion, mais être chrétien, c'est plus que cela. Alors voyons où se trouve ce passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11. Acte 11, et à partir du verset 20, jusqu'au verset 26. Lisons ce passage qui va nous révéler toute la signification biblique du mot chrétien. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 20 à 26. À partir du verset 19, déjà, on peut lire, oui. Ceux qui avaient été dispersés, donc les chrétiens qui avaient été dispersés par la persécution, survenue à l'occasion d'Étienne, donc le premier martyr aussi, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et Saul, c'est le futur apôtre Paul, n'est-ce pas, son nom avant. Sa conversion était Saul, Saul de Tarse. Donc là, il est question de Paul. Pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, le fameux verset, le fameux passage où il est question de la première mention du mot chrétien. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Alors, qui étaient ces chrétiens? Il est bon donc de voir tout le contexte de ce qu'on vient de lire pour en découvrir le sens. Et je vous assure, c'est un sujet très important, car il faut que nous sachions tous, chacun d'entre nous, moi le premier, si je suis un vrai chrétien. Car vous le savez comme moi, il y a aussi des faux chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Ces choses existent dans le monde. Et nous devons voir comment être un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Alors, premièrement, j'ai noté ici cette pensée importante, cet caractère du vrai chrétien. Premièrement, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est d'après le verset 21 que nous allons découvrir le sens du mot chrétien. Alors, premièrement, que signifie être chrétien? Être chrétien signifie, premièrement, à partir du verset, au verset 21, nous aurons le sens de cette première pensée. Premièrement, c'est avoir entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voilà, au verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Ils s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors, être chrétien, c'est avoir entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est là un point capital. Qu'est-ce? Il n'est pas dit ici qu'ils ont annoncé une religion particulière. Vous savez, les apôtres et Jésus lui-même n'est pas venu annoncer une nouvelle religion dans ce monde. Du temps des apôtres, il y avait déjà tant et tant de religions. Si la religion pouvait sauver quelqu'un, alors Jésus ne serait pas venu sur cette terre. Mais Jésus n'est pas venu amener une religion, car la religion n'a jamais changé la vie de quelqu'un, jamais. Vous savez, moi aussi, je me suis converti à 20 ans à Jésus-Christ. Et j'étais religieux avant cela. Faut pas penser que j'étais un païen, comme la plupart d'entre nous. J'étais un religieux. Mais ma vie n'était pas du tout transformée. J'étais religieux, mais perdu. On peut être religieux et être perdu. On peut avoir une religion et être perdu. Et quelle qu'elle soit, il n'y a pas une religion meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une religion qui peut dire « c'est nous la vraie » et les autres sont fausses. C'est une illusion. Il n'y a pas une religion meilleure que les autres. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle religion, mais il est venu amener une vie nouvelle, une nouvelle vie, alléluia! Une vie nouvelle. Et à son contact, des hommes et des femmes sont transformés. Les pécheurs sont transformés, les menteurs ne mentent plus, les adultères sont purifiés et ne commettent plus adultère, les voleurs ne volent plus, alléluia, les meurtriers ne tuent plus, les gens souillés ne font plus des choses pareilles. Il y a une transformation qui s'opère lorsque nous rencontrons Jésus-Christ. Alors, que veut dire être chrétien ? Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voyez-vous ici, donc il y a le premier point, ils leur annoncèrent la bonne nouvelle. Donc être chrétien, c'est avoir entendu la bonne nouvelle. Mais maintenant, écoutez-moi bien, la tragédie aujourd'hui, c'est qu'on a entendu parler d'une religion, mais la bonne nouvelle, on ne l'a pas encore entendue. Ou très peu. Très peu. Combien disent, mais la bonne nouvelle, moi je sais, ça y est, oui, c'est vrai, mais je prie. Je vais à l'église. Oh, mais je fais beaucoup de bien autour de moi. Et parfois, je me sacrifie. Oh, de temps en temps, je fais de mauvaises actions, mais les bonnes actions compenseront les mauvaises. Quand j'ai fait quelques mauvaises actions, alors j'essaye de me rattraper. Et je me sacrifie un petit peu. Je donne un peu plus aux pauvres. Et je pense que tout cela s'arrangera. Mes amis, tout cela, ce langage-là est absolument inconnu dans les évangiles et dans la parole de Dieu. Ils entendirent la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle ? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. Et là, il y a justement, dans la bonne nouvelle, il y a deux pensées très importantes qu'il faut découvrir. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Jésus lui-même a dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voyez-vous, tout le contexte de la prédication de l'Évangile dans les Actes des Apôtres et après, tout le contexte, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle est bonne ? Parce qu'elle s'adresse à des gens qui sont perdus et qui ont besoin d'être sauvés, à des gens qui sont pécheurs et qui ont besoin d'être sauvés. Jésus lui-même a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » Gloire à Dieu. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu pour des justes. Et malheureusement, les personnes religieuses, l'avez-vous remarqué, ce sont des propres justes. Ce sont des personnes qui pensent, parce qu'elles font du bien, parce qu'elles appartiennent à une religion, parce qu'elles pratiquent certaines œuvres, elles seront sauvées. Elles sont propres justes. Par nature, l'homme religieux est propre juste. Et vous savez, est-ce que les pharisiens de ce temps-là, c'était des gens justement religieux ? Est-ce qu'ils ont accepté le message de l'Évangile ? Pas du tout. C'est les gens religieux qui ont refusé Jésus. Quand Jésus leur disait, « Mais vous devez changer votre vie. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Mais les gens religieux, vous savez ce qu'ils leur disaient ? Ce qu'ils lui disaient ? Mais nous ne sommes pas perdus, nous. Nous avons notre père, c'est Abraham. Notre fondateur, c'est Moïse. Mais pour qui est-ce que tu nous prends ? Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes esclaves de personne, nous. Voyez-vous, ils étaient tellement propres justes que Jésus était venu là avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire que, oh, si vous réalisez votre véritable état de perdition devant Dieu, je vous amène justement une bonne nouvelle. Je viens vous pardonner mon sacrifice qui va être offert dans quelque temps, sera un sacrifice pour le pardon de vos péchés. Mais seulement, il faut reconnaître votre état de perdition. Si vous ne reconnaissez pas votre état de perdition, alors ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les pharisiens, ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle. Catastrophe! Vous devez vous repentir, changer de vie. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est une bonne nouvelle? Vous savez, la bonne nouvelle, c'est cela. La bonne nouvelle amène le trouble là où il y a une fausse paix. Et la bonne nouvelle amène la paix là où il y a le trouble. Amen. Et c'est pour ça, il faut bénir le Seigneur quand la bonne nouvelle que nous entendons nous trouble un petit peu. Ah, vous dites, monsieur, depuis que je vous ai entendu, je suis troublé maintenant. Moi qui croyais avoir la paix, maintenant je suis troublé. Alors si vous me dites cela, je vais dire gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne chose, car l'évangile amène d'abord le trouble là où il y a une fausse paix. Une paix qui n'est pas basée sur le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et c'est cela l'évangile. L'évangile vient nous troubler. Et Jésus troublait les gens religieux de son temps, n'est-ce pas vrai? Il les troublait. Et c'est pourquoi après, ils l'ont crucifié. Ils ont dit, ôte-le, ôte-le! Ils préféraient garder leur religion, mais jamais changer de vie. Vous savez, il y a des gens qui aiment leur religion, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils, leur religion leur dit de rester comme ils sont. Il n'y a rien à changer. On confesse continuellement le même péché. On n'a pas besoin de l'abandonner. On peut constamment confesser son péché et ne pas changer de vie. Alors vous pensez bien qu'une personne avec une telle religion la gardera toute sa vie, n'est-ce pas vrai? Mais la bonne nouvelle, c'est d'abord de réaliser. Pour qu'il soit une bonne nouvelle, nous devons réaliser devant Dieu que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus. Amen. Écoutez, là, il y a une vérité très importante. La parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Dans la bonne nouvelle, il y a justement le fait que nous devons reconnaître que nous ne sommes rien du tout, que nous sommes perdus. Et alors, ensuite nous entendons le message. Si tu reconnais que tu es perdu, si tu reconnais que tu as péché, alors la grâce de Dieu est là. Jésus a souffert pour tes péchés. Jésus a pris sur lui ton péché, ta condamnation, ta souillure, le jugement qui était sur toi. Jésus l'a porté à la croix. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce que les apôtres ont prêché, les premiers chrétiens, une bonne nouvelle. En leur disant, écoutez, on est tous séparés de Dieu. Par nature, l'homme est pécheur. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Tortueux et méchant par-dessus tout. Mais vous dites, monsieur, mais mon cœur n'est pas méchant comme ça. Il y a quand même des bonnes choses en moi. Il peut y avoir certaines bonnes choses en nous. Mais la Bible dit que fondamentalement, foncièrement, nous sommes mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi le monde est dans un tel état aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas reconnaître que le cœur de l'homme est mauvais. Et voilà pourquoi il n'y a pas de paix dans ce monde. Et individuellement, nous devons reconnaître que nous sommes perdus, mauvais. Que nous avons péché et que parce que nous avons péché, nous méritons la condamnation de Dieu. Je sais que accepter cela, c'est humiliant, n'est-ce pas? Ça, c'est humiliant. Et on ne veut pas reconnaître ses fautes. On ne veut pas reconnaître qu'on est mauvais. Mais tant qu'on ne reconnaît pas cela, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon possible tant que nous ne reconnaissons pas notre état de perdition devant lui et de péché. Mais si on le reconnaît cela, alors Dieu nous dit, eh bien, regarde à la croix, là mon fils est mort à ta place. La Bible dit, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Christ a souffert pour nos péchés, lui le juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quand je regarde la croix désormais, voyez-vous, je dois comprendre une chose. Là, je regarde la croix et je me dis, c'est moi qui aurais dû être jugé. C'est moi qui aurais dû être sur cette croix et être condamné par la justice et la sainteté de Dieu. Mais quand je contemple la croix, je vois Jésus, lui le juste, le saint, le pur, le parfait, mourir sur cette croix à ma place. Christ n'est pas mort pour ses péchés. Christ est mort pour ton péché et pour mon péché. Il est mort à ma place. Alléluia. La parole de Dieu dit que Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela veut dire que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris mon péché. Et ce péché mérite la mort. Et voilà pourquoi Jésus est mort. Mais une fois qu'il a pris ma condamnation à mort, il me donne en retour sa justice et son pardon. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est une bonne nouvelle. Je n'ai désormais plus rien à faire pour me sauver moi-même. Christ a tout accompli. Gloire à Dieu! Je suis parfaitement sauvé. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que le sacrifice de Jésus est parfait. Alléluia! N'a-t-il pas dit lui-même, lorsqu'il s'était crié sur la croix, « Tout est accompli !» Il a parfaitement tout accompli. Il ne pouvait rien faire de plus. Il a payé notre dette. D'ailleurs, le mot « tout est accompli » dans le texte grec, quand Jésus parle, voulait dire « c'est payé, c'est payé, c'est payé. » Payé. C'est le mot « tout est accompli », c'est le mot qu'on mettait en ce temps-là sur les factures. Quand une facture était payée, on mettait « c'est payé ». Tout est accompli, c'est le même mot. Et Jésus a employé le même mot. C'est payé, la facture est payée. Lui a subi la séparation de Dieu à cause de nous, de son Père. Lui a souffert, lui a été rejeté. Il a payé notre dette. Et maintenant, nous sommes libres. Alléluia! Si la facture est payée, Dieu ne vous réclame plus rien maintenant. Dieu ne vous réclame plus rien si vous croyez au sacrifice de Jésus. Alléluia! Mais si vous ne croyez pas au sacrifice de Jésus, vous aurez à payer votre dette. Et cette dette-là sera la condamnation et la mort et l'enfer, loin de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Mais si nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ, c'est le pardon, la dette est payée, c'est la libération. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voyons maintenant la deuxième signification. Deuxième signification, au verset 21 toujours, qu'est-ce qu'il est dit? Donc il leur annonçait la bonne nouvelle. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voilà la deuxième pensée ici et là. Donc être chrétien signifie, c'est croire et se convertir au Seigneur. Donc c'est croire à cette bonne nouvelle dont on vient de parler, et qu'est-ce qu'il est dit après? Ils crurent et se convertir au Seigneur. Donc être chrétien, c'est se convertir au Seigneur. Ce n'est pas se convertir à une église, à une religion, c'est se convertir à une personne, à Jésus-Christ. Amen. Et ici, qu'est-ce qu'il est dit? Au Seigneur. Remarquez-le bien. Et le mot « Seigneur » voulait dire que quand je me convertis à lui, cela voulait dire qu'à partir de ce moment, ma vie ne m'appartient plus. Il est le Seigneur. Je ne suis plus le maître de ma vie. Jésus en devient le maître et le Seigneur. Cela voulait dire, à partir de maintenant, je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut dans ma vie. Amen. C'est cela être chrétien. C'est se convertir au Seigneur. Beaucoup de gens sont convertis à une religion ou à une église, mais ils ne sont pas convertis au Seigneur. Ils font la volonté de leur église, de leur tradition, de leur religion. Mais être chrétien, ce n'est pas faire la volonté de sa religion, c'est faire la volonté du Seigneur Jésus. Alléluia! Être chrétien, ça veut dire croire au Seigneur. Cela veut dire que désormais, s'il est mon sauveur, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour lui. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ils l'ont renié comme leur Seigneur. Ils font encore ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils dirigent leur vie eux-mêmes. Et un chrétien qui vit sa vie comme cela, qui ne soumet pas sa vie à la parole de Dieu, sera un chrétien malheureux.
Un vrai chrétien, c'est pas celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur. On lui donne pas seulement nos péchés au Seigneur, mais vous devez aussi lui donner votre volonté. Voilà une vérité importante. Votre volonté. Seigneur, je ne te donne pas seulement mon péché, mais je te donne aussi ma volonté, ma vie, ma volonté. À partir de maintenant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Alléluia! Je ne dirige plus ma vie moi-même. Il est le Seigneur. C'est lui qui doit diriger ma vie. Et vous ne serez heureux que dans la mesure où Jésus est le Seigneur. Vous savez, chaque fois que j'ai voulu reprendre ma vie, même après avoir donné ma vie au Seigneur, chaque fois que j'ai voulu revivre un peu pour moi-même, sans renier le Seigneur, bien sûr, mais un peu vivre pour soi et faire des petites choses qu'on sait ne plaisent pas toujours au Seigneur, qu'on vit pour soi, on est malheureux. On est malheureux. On est malheureux. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux, parce qu'ils vivent, ils font comme ils veulent. C'est une contradiction en soi. Un chrétien qui fait ce qu'il veut, c'est une contradiction. Un vrai chrétien, il s'est converti au Seigneur. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, non seulement je t'ai donné mon péché, Seigneur, ma souillure, ma honte, mais je te donne ma volonté et ma vie. Alléluia. À partir de maintenant, c'est toi qui commandes et je te suivrai jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un vrai chrétien. Ça, c'est un vrai chrétien. Et vous savez, tant que nous n'abdiquons pas devant Dieu, tant que nous ne disions pas, Seigneur, à partir de maintenant, non plus ce que je veux, mais ce que tu veux dans ma vie, nous serons toujours insatisfaits. Toujours nous serons insatisfaits. Et nous serons intérieurement malheureux. Moi-même, c'est seulement lorsque j'ai dit, Seigneur, non seulement je te donne mon péché, mais ma vie maintenant, ma volonté. À partir de maintenant, c'est toi qui commandes, je te donne les rênes de ma vie. Où tu veux, Seigneur, comme tu veux. Bien souvent, nous avons peur de donner toute notre vie au Seigneur, comme si on allait être malheureux. Mais laissez-moi dire une chose, moi j'étais malheureux quand c'est moi qui dirigeais ma propre vie. On est malheureux parce qu'on tient nous-mêmes les rênes de notre vie. C'est alors qu'on est malheureux. On est malheureux parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais laissez-moi dire une chose, vous connaîtrez une joie, un bonheur, une plénitude, seulement lorsque vous dites au Seigneur, prends les rênes de ma vie. Dirige toi-même le char, et je te suivrai partout où tu iras. Alléluia! Quelle joie! Parce qu'il a un plan, il a un programme pour vous. Si lui dirige votre vie, il a un plan parfait. Toi, tu ne connais pas ton plan. Je bénis le Seigneur d'avoir obéi à sa voix. Je bénis le Seigneur parce que je remarque qu'il a un plan parfait pour ma vie. Il fait des choses que jamais je n'aurais pu faire. Et il en est de même pour chacun d'entre vous. Il a un plan merveilleux. Alléluia! Vous ne connaissez pas tout, mais il a un plan, et ce plan est extraordinaire. Non seulement il veut vous bénir, mais il vous rendra aussi en bénédiction à des milliers de personnes. Oh, gloire à Dieu! C'est Dieu, votre Père, qui a préparé quelque chose de grand, mais vous devez lui soumettre toute votre vie, sinon il n'y a rien qui s'accomplira. Sinon vous tournerez en... Voilà les premiers chrétiens. Ils se convertirent au Seigneur. Il n'est pas dit ici à Jésus, mais au Seigneur. L'accent est mis sur la seigneurie de Jésus, sur le fait que, désormais, ces premiers chrétiens avaient tout abandonné, péché, vie personnelle, égoïsme, tout entre les mains du Seigneur, pour que sa seule volonté se fasse. Alléluia! C'est pourquoi ils étaient conquérants, c'est pourquoi ils étaient prêts même à mourir pour le Seigneur. Personne ne pouvait arrêter les premiers chrétiens, personne! On se moquait d'eux, mais peu importe de ces moqueries. Alléluia! Quand quelqu'un livre sa vie au Seigneur, il est heureux, même dans la souffrance, dans la persécution. Il peut passer par ça, il passera par là, mais la présence du Seigneur sera là. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui marchent avec lui. Amen. Des hommes vous abandonneront, des personnes, des amis vous abandonneront. Mais laissez-moi vous dire une chose, si vous voulez faire la volonté de Dieu, le Seigneur, lui, ne vous abandonnera pas. Il est l'ami fidèle. Il y a un beau chant qui dit « Quel ami, fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci, toujours prêt à nous aider. Alléluia ! Oh, combien j'aime le Seigneur ! Combien nous pouvons l'aimer davantage et se convertir au Seigneur, à une personne. Être chrétien, ce n'est pas des formalités que l'on remplit, ce ne sont pas des rites que l'on sait, que l'on fabrique, que l'on suit. C'est une personne que l'on aime de tout son cœur. Alléluia. Troisièmement, Être chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? Voyez-vous, déjà être chrétien, c'est un autre sens, selon la Bible, n'est-ce pas? Encore un autre sens merveilleux. Au verset 23, cette fois, nous en trouvons le sens. Verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, lorsque Barnabas est arrivé là, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alors, regardez ici, au verset 23, il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alors là, il y a la troisième signification du mot chrétien. Alors, c'est être déterminé à persévérer et à rester fidèle au Seigneur. Alors, notez cette troisième pensée. Être chrétien, d'après le verset 23, c'est être déterminé à persévérer et à rester fidèle au Seigneur. Le verset 23 nous dit cela. Il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alléluia! Il ne leur a pas dit, oh, ben maintenant, ça va, vous avez accepté Jésus. Bon, ben, vous, ça va, Dieu vous bénira, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous savez, Dieu est bon, alors faites un peu comme vous voulez, c'est pas grave. Vous pouvez y aller. Est-ce qu'il y a un tel langage? Au contraire, il les exhorte d'un cœur ferme à être attaché au Seigneur. C'est comme s'il leur disait, eh bien, maintenant, vous devez être déterminé à persévérer et à rester fidèle au Seigneur. Voilà la qualité d'un chrétien. C'est quelqu'un qui non seulement met la main à la charrue, mais il va jusqu'au bout. Parce que Jésus lui-même a dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Un vrai chrétien, c'est celui qui calcule bien le prix. Mais quand il se décide pour Jésus-Christ, plus personne ne peut l'arrêter. Alléluia, alléluia! Il est déterminé à persévérer et à être fidèle, car il y aura des combats. Il y aura des combats. Ne pensez pas que ce sera facile. Ne pensez pas que tout le monde vous applaudira. Ne pensez pas que tout le monde acceptera même l'expérience que vous avez faite. Souvent, quand on est converti au Seigneur, on a une telle joie, il y a une telle paix en nous qu'on voudrait que tout le monde connaisse cela, n'est-ce pas? On voudrait. Alors certains acceptent, mais il y en a d'autres, des vraies portes de prison. Ils nous regardent de travers. Ils nous disent, ce que c'est ça, moi j'y crois pas. C'est un feu de paille, ça ne durera pas. Tu es un fanatique. Tu es un fanatique, toi. Alors voyez-vous, on est incompris. Ou alors on vous dit, non seulement tu es fanatique, mais tu as perdu la tête. T'as perdu la tête, toi, il faut t'enfermer maintenant. Tu es devenu un mystique. Qui est un mystique? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la folie. On vous traitera de fou. On a traité l'apôtre Paul de fou. L'empereur qui écoutait Paul parler s'est écrié, tu es fou. Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul lui dit, je ne suis pas fou, empereur. Mais au contraire, les paroles que je te dis sont des paroles pleines de bon sens. Puisses-tu être comme moi, à l'exception de ces liens, disait-il. Oh, il en faudrait beaucoup plus de fous comme Paul, vous êtes d'accord avec moi? Et le monde serait beaucoup plus sage. Amen. Beaucoup plus de fous comme Paul, et le monde serait plus sage. Beaucoup plus de gens liés comme Paul, liés à l'évangile, et le monde serait beaucoup plus libre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est déterminé à persévérer. Voyez-vous, il y aura des combats. Ne vous découragez pas, mes amis. Votre Dieu sera avec vous. Jamais il ne vous laissera. Soyez fidèles. Il y a une chose, un chrétien, c'est celui qui plaît, qui veut plaire à son Seigneur et à personne d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous ne plairez jamais à tout le monde dans ce monde. Vous ne plairez pas à tout le monde. Jésus qui était parfait, est-ce qu'il a plu à tout le monde? Pourtant, il était parfait. Alors regardez, il était parfait, il a tout dit parfaitement, il n'a rien dit de travers, il a toujours dit les bonnes paroles, dans la bonne attitude, de la bonne façon, au bon moment, il a tout fait de la bonne manière, et encore, il a été rejeté. Alors nous qui sommes imparfaits, vous pensez qu'on sera acceptés? Nous qui sommes imparfaits, vous pensez qu'on va nous applaudir tout le temps? On fait nos erreurs, on fait nos bêtises, on ne plaira jamais à tout le monde! Tu ne plairas pas à tout le monde, mais cherche d'abord et avant tout à plaire à ton Seigneur. Amen. Et si tu fais des fautes parce que tu veux plaire à ton Dieu, Dieu t'aidera. Demande-lui pardon et il te relèvera. Alléluia. Même si tu fais des fautes en voulant plaire à ton maître, lui ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Il ne te jettera pas comme cela, comme un vaurien. Il est ton Dieu, il est ton berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia! Et il garde ses brebis, il te gardera. Sa houlette et son bâton te rassureront. Nul ne mettra la main sur toi. Tant que tu te confies à ton berger, en ton Père céleste, en ton Sauveur, il te gardera de tout mal. Alléluia! Quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu n'auras aucune crainte, car il sera avec toi. Alléluia! Ah, nous avons un évangile qui peut nous rendre, qui peut nous enthousiasmer, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Mes amis, nous avons un évangile qui enthousiasme! Qui enthousiasme! C'est le seul message qui sauve les hommes et qui les rend heureux. Il n'y en a pas d'autre. Quatrième signification. Au verset 26, cette fois, nous allons trouver le sens. Verset 26. Barnabas et Saul, donc, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Et regardez ici. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Pendant toute une année, donc tous ces chrétiens, ils se rassemblèrent, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Alors ici, il y a une quatrième pensée importante. Être chrétien, c'est s'engager dans une Église fidèle au Seigneur et vivante. Amen. Je répète. Être chrétien, c'est s'engager. Il se réunit aux assemblées de l'Église. C'est s'engager dans une Église fidèle à la parole de Dieu et vivante. Être chrétien, ce n'est pas faire ce que vous voulez. Ce n'est pas ne pas appartenir à une Église vivante. Un vrai chrétien doit appartenir à une Église vivante. Pas n'importe quelle Église, mais une Église fidèle à la parole de Dieu. Mais se dire chrétien et ne pas être engagé dans une Église locale, où on se soumet à la parole de Dieu, où on vit en famille, ce n'est pas être un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas vivre tout seul. Une fois que nous sommes convertis, nous entrons dans la famille de Dieu. Alléluia! Dans la famille du Seigneur, des rachetés du Seigneur, qui sont lavés, purifiés par le sang de Jésus. Gloire à Dieu! Il y a là une vérité importante, qui est négligée, qui est beaucoup négligée à l'heure actuelle. Beaucoup négligée. On pense que, étant chrétien, après, on n'a pas besoin de se réunir avec d'autres chrétiens. Alors, on n'a pas besoin de s'engager dans une église fidèle à la parole de Dieu. Mais qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut aller à l'église quand on veut, comme on veut, quand on veut. Naturellement qu'on peut faire toutes ces choses-là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est encore un vrai chrétien? Est-ce qu'on est encore un vrai chrétien? On se fabrique nous-mêmes sa petite religion. On pose nous-mêmes les conditions. Mais un vrai chrétien, il se réunit. Il se réunit aux assemblées de l'Église. Voyez-vous, un chrétien ne peut pas vivre tout seul. Vous savez qu'une brebis qui vit toute seule sera toujours la proie des loups. Et c'est pourquoi beaucoup de brebis qui vagabondent comme ça, qui ne sont pas engagées dans une Église, tôt ou tard, font de tristes expériences. Soit ils sont pris par des fausses doctrines, soit ils font des expériences malheureuses. Le diable les attaque, ils ne sont pas protégés. D'où l'importance, ils se réunissent aux assemblées de l'Église. C'est pas moi qui le dis. C'est vital. Parce que maintenant, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre que tout seuls. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous devons choisir un bon endroit. Et si ton Église est morte, n'aie pas peur de changer d'Église. Et d'aller là où on est fidèle à la parole de Dieu. Amen. Moi, j'ai dû changer d'église. Et aller dans une église où on prêchait la parole de Dieu et il y avait la vie. Mon désir à moi, c'est de ne pas suivre des hommes ou des traditions humaines, mais c'est de suivre le Seigneur et d'aller là où on est fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est un point important. Un vrai chrétien, il s'engage dans une église locale, fidèle à la parole de Dieu. Et là, il peut grandir et prospérer. Le chrétien isolé n'existe pas selon la Bible. Ça n'existe pas. Quand vous lisez tout le Nouveau Testament, c'est toujours dans le cadre d'une église locale, de la communion avec les autres chrétiens, que la Bible est écrite. Jamais pour qu'on vive une vie seule comme cela. Jamais. Ça n'existe pas. C'est une vie dangereuse. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et voilà pourquoi certains sont malheureux. peuvent être trompés, séduits même. Il est vital de s'engager. Amen. Vital. Tu ne peux pas vivre tout seul. Tu as besoin de la communion des autres, pour prier ensemble, pour que les autres aussi prient pour toi, pour grandir dans l'amour, pour apprendre à vivre avec les autres aussi. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais on en a besoin. On en a besoin. Tu as besoin aussi d'entendre la prédication de la parole dans une église fidèle. Et là, c'est comme cela que tu grandiras. Alléluia! Gloire au Seigneur. Voilà donc un point très important, mes amis, qui est négligé par beaucoup. Négligé par beaucoup. Mais si cette vérité n'est pas mise en pratique, on végète. Ces chrétiens végéteront. Et à la fin de leur vie, ils réaliseront qu'ils ont manqué beaucoup. Ils ont presque perdu leur vie. Ah, ils seront peut-être sauvés, parce que le salut est par grâce. Mais quant à leur vie, à elle, eh bien, gâchée, une vie gâchée. Une vie gâchée. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas soumis aux règles de Dieu, aux conditions de Dieu, pour vivre comme un vrai chrétien. N'est-ce pas vrai ? Allons un peu plus loin. Cinquièmement, verset 26. Toujours verset 26. Il est dit, donc, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ensuite, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Voilà ici une autre caractéristique, définition, si vous voulez, du chrétien. C'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes, voyez-vous? Alors quand on entre dans l'Église, là on est enseigné pour vivre comme Dieu le veut. Quand on est chrétien, je le répète, on ne vit plus comme on veut, mais on vit comme Dieu le veut. Notre vie a tellement été à l'opposé de ce que Dieu attendait de nous. Maintenant nous avons besoin d'être enseignés pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pourquoi le vrai chrétien, c'est celui qui est décidé d'obéir à la parole de Dieu. Et il doit contrôler tout ce qu'il entend pour voir si cela est dans la Bible. La vraie foi du chrétien est basée sur la Bible et non sur des traditions humaines, sur des commandements d'hommes. Si notre foi est basée sur des traditions humaines, des commandements d'hommes, la Bible dit que c'est en vain qu'on honore Dieu et qu'on suit des commandements d'hommes. Si on met de côté la parole de Dieu, c'est en vain. Nous pouvons croire toute notre vie pour rien du tout. Si notre foi n'est pas fondée sur la Bible, amen, obéir. Ça, c'est le signe d'un vrai chrétien. Quand le chrétien entend la Bible, le message, et quand il y a quelque chose à changer, le chrétien dit, ah bon, ça ne me plaît pas beaucoup ce qui est écrit, mais puisque c'est Dieu qui le dit, je me soumets. Je me soumets. Je vis maintenant pour obéir au Seigneur. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Amen. Ne l'oubliez pas, je vais donner une pensée importante. Le péché, c'est quoi, mes amis? Le péché, par nature, c'est la rébellion. C'est la désobéissance au commandement de Dieu. C'est cela. On est pécheur parce qu'on a fait ce qu'on a voulu et on a désobéi au commandement de Dieu. On a vécu comme on a voulu. Et le salut, c'est quoi? C'est le contraire. Le salut, c'est l'obéissance. Désormais, j'ai compris que j'étais pécheur, cela voulait dire que j'étais rebelle au commandement de Dieu. Je faisais ce que je voulais, ou j'obéissais au commandement d'homme, aux traditions humaines. Mais maintenant, mon désir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Obéir. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un vrai chrétien, c'est cela. Si la Bible dit, alors j'obéis. Même s'il faut mettre de côté tradition, commandement d'homme, tout cela, je les mets de côté parce que Dieu dit ce qu'il dit. Et c'est la parole de Dieu que je dois obéir. Amen. Mais voilà le signe encore d'un vrai chrétien. Mais il y en a beaucoup qui prennent ce qu'ils veulent dans la Bible. Tous les passages qui les intéressent, avez-vous remarqué? Ils prennent tous les passages de bénédiction, de guérison, de miracles et tout. Oui, oh, je crois à la Bible, il y a des miracles, il y a tout. Oui, oui. Alors on prend tous les passages qui concernent les bénédictions. Voyez, oh, gloire à Dieu, oh, oui, oui, oui. Mais les passages où il faut obéir, changer de vie, se repentir, abandonner ce qui est mauvais, ah ça, on les voit pas ces passages, on les voit pas, je sais pas, on est toujours aveuglé, on les voit pas très bien, je sais pas, on est, quand on arrive là, on voit rien, ou alors on a justement mal à la tête à ce moment-là, ah j'ai mal à la tête, non on a justement mal à la tête, maintenant pour le moment ça va, je vais me calmer un peu, c'est sympa. Après quand ça ira mieux, je relirai ma Bible. On trouve toutes sortes de prétextes. On veut bien prendre dans la Bible les bénédictions que Dieu nous donne. Mais quand Dieu nous dit, il n'y a pas seulement des bénédictions, il y a aussi des responsabilités, tu dois aussi obéir. Et c'est ça le salut. La vie chrétienne se résume en un seul mot, mes amis, l'obéissance. Mais pas n'importe qui, pas à moi, pas à un homme, pas à une religion, pas à n'importe qui, à la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, vous serez vraiment mes disciples, dans Jean chapitre 8, vous serez vraiment mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Nous serons vraiment ses disciples si nous faisons ce qu'il nous commande. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allons un peu plus loin. Oui.
Combien de... encore ?
Alors, sixièmement, donc, être chrétien, c'est devenir un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ, au verset 26. Un disciple de Jésus-Christ. C'est devenir un disciple. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est dit ? Ceux qui, et les disciples, au verset 26, furent appelés chrétiens. Les disciples. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc, être un chrétien, c'est être un disciple. Et qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est quelqu'un qui veut obéir à son maître. C'est quelqu'un qui veut plaire à son maître. Et c'est quelqu'un qui veut faire comme son maître. Et c'est quelqu'un qui veut communiquer le message du maître aux autres. Alléluia. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui veut toujours apprendre, apprendre, être ressemblé à son maître. Et communiquer le message aux autres aussi. C'est cela un vrai disciple. Alléluia. Et pour terminer, verset 24. Être disciple, être chrétien, c'est chercher à sauver d'autres personnes. Verset 24. Il est dit ici, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Voyez-vous ici, il était venu pour bénir les autres chrétiens, les nouveaux chrétiens, mais il en a amené d'autres au Seigneur. Barnabas, non seulement il est venu encourager les chrétiens qu'il y avait, mais d'autres se sont convertis. Donc être chrétien, c'est sauver d'autres personnes. Un vrai chrétien, c'est celui qui non seulement veut être sauvé lui-même, mais il veut apporter ce message aux autres. Alléluia! Un vrai chrétien, c'est cela. Il est sauvé lui-même. Et il dit, mais je ne peux pas rester tout seul. Je ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Il faut que j'aille le dire aux autres. Alléluia! Le vrai chrétien, c'est celui qui a le feu d'annoncer le message aux autres et de les amener au Seigneur. Alléluia! Voilà le vrai chrétien. Il ne garde pas ce message pour lui-même. C'est dangereux quand notre vie chrétienne tourne autour de nous, mes amis, et que nous n'avons pas la passion des âmes. C'est dangereux. C'est un chrétien malade, celui qui n'a pas la passion des âmes, qui ne veut pas amener d'autres âmes au Seigneur. Ce chrétien est malade. C'est un chrétien égoïste, égoïste, qui ne pense qu'à lui. Et ce chrétien en général qui ne pense qu'à lui sera toujours malade. Il est toujours en train de se soigner, et plus il se soigne, plus il est malade. Plus il se soigne, plus il est malade. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Si tu veux être un chrétien fort, victorieux, tu dois penser aux autres. Alléluia. Pense aux autres. Tu es sauvé de la mort, de l'enfer. Va maintenant, annonce le message. Sauve d'autres personnes. Alléluia. Et Dieu te bénira. Alléluia. Voilà le message de l'évangile. Voilà la bonne nouvelle. Voilà ce que signifie être un chrétien. Soyons de vrais chrétiens. Et apportons ce message dans ce monde. Car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Ce que nous devons le faire, faisons-le maintenant. Obéissons et glorifions notre Maître dans nos vies. Amen.